Et merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. Bonne nuit sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
RTL, il est 3h. 24 heures d'info, Charles Ducrot.
Une marche blanche ce samedi à Châteauroux, organisée par la famille et les proches de Matisse, cet adolescent de 15 ans tué de plusieurs coups de couteau la semaine dernière. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Une cérémonie de recueillement dès 10h précédera la marche prévue, elle, à 15h30. Et ce vendredi, un jeune homme de 18 ans a été poignardé à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers, au nord de la ville. Les circonstances de sa mort restent encore floues. La victime était connue des services de police. Il n'y a eu pour l'heure aucune interpellation. Les syndicats lycéens appellent à leur tour au blocage des lycées dès lundi et rejoignent les mouvements étudiants pro-palestiniens qui s'étendent dans plusieurs dizaines de campus. L'Union syndicale des lycéens réclame dans un communiqué un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Plusieurs étudiants pro-palestiniens se sont spontanément réunis à Paris ce vendredi sur la place du Panthéon, toujours pour manifester leur soutien gazaoui. Les locaux de Sciences Po Paris ont été évacués par la police à la mi-journée. Pendant ce temps, les pourparlers se poursuivent entre le Hamas et plusieurs médiateurs au Caire en Égypte. L'Égypte, aux côtés du Qatar et des États-Unis, tente de négocier un accord de cessez-le-feu associé à la libération d'otages israéliens encore détenus dans l'enclave palestinienne. 150 000, c'est le nombre de soldats russes morts au combat depuis le début de la guerre en Ukraine. Chiffre communiqué par Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. C'est moins que les 180 000 estimés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin de l'hiver. Relayeuse de la flamme olympique, la drag queen nommée Minima Gesté est victime de propos homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux. La justice a été saisie. Anne Hidalgo, la maire de Paris, témoigne de son soutien et se dit fière qu'une drag queen porte la flamme. Le football, maintenant, avec les deux premières affiches de cette 32e journée de Ligue 1. Montpellier assure son maintien après avoir battu Toulouse 2-1. Lens s'offre la victoire à domicile face à Lorient 2-0. Quatre matchs au programme ce samedi. Le Havre, Strasbourg, Monaco-Clermont, Metz, Rennes et à 21h, Brest reçoit Nantes. Enfin, en basket, Monaco peut toujours rêver du Final Four de l'Euroleague après une victoire à l'arraché sur le parquet de Fenerbahçe en Turquie. Victoire sur un fil 65-60. Dans une atmosphère étouffante, voire tendue, plusieurs supporters turcs ayant pris les monégasques à partie. La météo pour ce samedi, des pluies circulent des côtes atlantiques vers les régions du centre et du nord-est. Près de la Manche, un temps plus calme avec de rares averses. Ce sera sec dans le sud-est avec des éclaircies. Pour les températures de la matinée, comptez 7 degrés pour Aurillac, Lille ou encore Cherbourg, 8 à Paris, Lyon et Strasbourg, 10 à Montpellier, 12 à Nice et déjà 16 à Biarritz. L'après-midi, les températures continue de grimper, 13 à 18 degrés pour la moitié nord, 18 à 21 pour la moitié sud. Les courses pour terminer, le quintet est à Vincennes ce samedi, départ 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6, le 5, le 4, le 11, le 13, le 14 et le 10. L'outsider d'RTL, le numéro 11, j'aime le foot.
RTL, 24 heures d'info. Les grosses têtes sur RTL, Laurent Ruquier, 3h, 4h30.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a fait ses débuts hier à la fois Renata et Joconde, Karina Marimont. Laissez-moi vous présenter des nouvelles grosses têtes, Karina, une grosse tête que vous connaissez, je crois. Il aurait pu jouer la Joconde s'il avait été hôtesse de l'air et ch'ti. Enfin, plutôt si la Joconde avait été hôtesse de l'air et ch'ti.
Allez, voilà.
Jean-Philippe Janssen.
Bonjour.
Une grosse tête aussi sensuelle qu'un tango, mais aussi tranchante que la tronçonneuse du président argentin, Marcela Yacoub. Une grosse tête dont le chat attend toujours son musée, Philippe Gueluc.
Bonjour.
Une grosse tête dont on se demande encore quand est-ce qu'il faudra changer les piles, Johan Rioux. Bonjour. Et une grosse tête qui, même pendant un interrogatoire de police, trouverait les questions mal posées.
Ouais.
François Rollin.
Hello.
Ah, vous allez faire connaissance avec des cas psychiatriques nouveaux aujourd'hui.
Oui, je vois ça. Ouais.
Mademoiselle Marimont. Je dis mademoiselle parce que vous êtes célibataire et ça tombe bien parce qu'on a un puceau dans l'équipe. C'est Johan Rioux.
Mais qui pourrait faire un beau tableau aussi qu'on appellerait le Jocon.
Alors, je suis célibataire, mais je ne suis pas désespérée.
Bonjour, oui, Karina. Bonjour.
Alors, on n'est pas là quand même.
J'ai beaucoup apprécié votre striptease dans la Joconde. Parce qu'au début, vous êtes bien habillée, bien vêtue. Oui. Et au fur et à mesure, bah, on voit les petites coutures qui se. Qui, je sais, j'ai pas le mot parce que je suis pas habitué à des
habits. Oui, bah oui. Ouais. C'est plein d'émotions tout ça.
Ah, mais lui, il est tout rouge, il s'agit.
Ah, ouais, non, mais...
Il transpire.
Il a pris 2 litres d'eau avec lui, je comprends mieux.
J'ai adoré en fait parce que j'étais venu à la couturière. C'est un soir très spécial. Il m'avait beaucoup ému à la fin. Vous avez dit oui, c'est une couturière, mais pour moi, c'est une première parce que mes parents sont dans la salle et je pense fort à eux. Ah, non, mais j'avais des larmes aux yeux. Ah, j'étais mal placé, mais j'ai très bien vu.
Ouais.
Vous m'avez mis au fin fond. Non, mais vraiment, j'avais pas
l'impression. Est mal placé, vous avez fauteuil 32, 33 et 34.
Oui, mais, oui, Laurent, mais avec des accoudoirs. C'est ça le problème.
C'est pas votre genre, alors Johan Rioux, Karina Marimont.
Oh, bah, pas trop.
Vous m'avez dit que vous aimiez les hommes un peu virils, un peu bruts, un peu.
Bah oui, mais... Alors voilà, donc oui, plutôt rugbyman, quoi, voilà.
Ah, oui, oui, pas en forme de ballon, quoi.
Non, mais tu ne connais pas, tu ne connais pas.
Vous préférez Monsieur Rollin, je sens le professeur Rollin. Voilà, c'est plus votre genre intellectuel et en même temps bûcheron.
Non plus, mais...
Et Jean-Phi, alors ça te dirait ou pas, Jean-Phi?
Non, mais je pense qu'elle a compris qu'elle avait affaire quand même.
Je suis pas complètement con non plus, bien vu que...
Elle est pas aveugle, hein.
Mais c'est pas beau, je trouve, pour une femme,
sourde.
De tenter de transformer quelqu'un qui aime les hommes en quelqu'un qui aime les femmes. Moi, je trouve que ce serait...
Ah là là.
Moi, si j'étais une femme, j'adorerais essayer de transformer ça, non? Laurent, ouais. Par exemple, j'aurais adoré vous transformer, que vous
changez... J'ai déjà fait.
Ma vie, que vous aimiez les... Bah, je trouve que c'est un beau challenge pour un homme, je trouve.
Eh ben, mets une perruque la prochaine fois que tu viens.
Bon, toi, tu peux transformer à l'envers. Par exemple, moi, je suis hétérosexuelle et avec toi, je pourrais devenir lesbienne.
Allez, une première citation. Ah, une citation très amusante pour Laetitia Demailly, qui habite Fontenelle-Pénel dans le Calvados, qui a dit « Quoi que vous fassiez, faisiez le bien.
Ah. » Bon, Coluche aurait pu dire ça. Ah,
c'est pas Coluche.
Non. C'est francophone.
C'est francophone.
Ouais. Non, mais c'est
Frédéric Dard. Gueluc, Philippe Gueluc.
C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Johan Rioux. Quoi que vous fassiez, faisiez le bien. C'est évidemment Le Chat. C'est d'ailleurs dans le dernier album du Chat, toujours disponible chez Casterman.
Merci Laurent.
C'est vraiment parce que c'est votre anniversaire.
Et le type du bistrot de la place du marché m'a dit que c'était la Saint-Philippe aujourd'hui.
C'est pas vrai.
Ah ben voilà, je le savais.
Bah, bonne fête alors Philippe.
Eh ben merci.
Ben oui,
amis.
Tous les parents qui admirent.
Et moi, je suis plus camembert.
Mais attendez, je comprends pas parce qu'il y a monsieur Jean-Philippe Janssen qui réclame de son côté. Il dit moi aussi, on doit me souhaiter bonne fête. Vous n'appelez pas Philippe, vous?
Ben, je m'appelle Jean-Philippe. Il y a quoi dans Jean-Philippe? Il n'y a pas Philippe.
Il y a surtout Jean-Phil.
Ah oui.
Jean-Philippe, c'était pour Johnny Hallyday.
Bah oui, mais n'empêche que c'est mon prénom. Je m'appelle Jean-Philippe parce que mon père est fan de Johnny Hallyday.
Oui, mais Jean-Philippe, en fait, Jean-Philippe, le jour de la Saint-Jean, pas le jour de la Saint-Philippe.
Bah oui, c'est le premier.
J'ai le droit aux deux, j'ai eu les deux. Je demande juste un peu de joie et de bonheur, je demande juste qu'on fasse un petit peu attention à moi.
Pourquoi il t'a pas simplement appelé Johnny alors?
J'aurais aimé.
Johnny Janssen.
Johnny Janssen, ça c'est un nom de scène. Johnny Janssen, je peux te dire qu'on aurait rempli le Stade de France.
Oui, mais ça coûtait trop cher, Laetitia aurait demandé des droits.
N'empêche que moi aussi j'aimerais bien. C'est quand même très très flatteur d'être sur le plateau des grosses têtes et d'être cité. J'espère qu'un jour on dirait une citation de moi.
Ah bah si vous voulez.
De ton spectacle et tout, bien sûr.
Bien sûr, je prendrai un extrait de votre.
Laurent,
oui, non, mais
j'en ai une.
Qui a dit, attendez, alors je peux y aller. Si vous voulez, je peux y aller.
Moi, j'en ai une.
Qui a dit, quand j'étais en Thaïlande, je suis allé dans un Macron, mais qui a.
Jean-Phi Janssen.
Jean-Phi Janssen.
Et puis, il y a une fille, avec sa nénette, elle lançait des balles de ping-pong.
C'est Jean-Phi Janssen.
Voilà.
Bravo.
On comprend pourquoi tes parents t'ont pas appelé Jean-Baptiste en hommage à Molière. Ça, c'est sûr. On comprend tout de suite.
Qui a dit Et ce sera pour Mehdi Charette de Blotzheim dans le Bas-Rhin, qui a dit « L'optimiste et le pessimiste contribuent tous deux à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste le parachute. »
C'est beau, ça.
Ah, c'est beau, hein.
Ah, oui, vit quelqu'un de vivant?
Ah, c'est quelqu'un qui est mort en 1950.
Ah oui, donc il est plus vivant.
Ah non.
Un auteur, un écrivain.
Ah oui, dramaturge, auteur, critique musical, essayiste.
Français.
Prix Nobel de littérature en 1925.
Français?
Français, non.
Américain, alors?
Américain, non plus.
Né anglais? À, irlandais?
Né à Dublin.
C'est pas Bernard
c'est
Shaw?
C'est Bernard Shaw.
Bernard George Shaw. Shaw.
Georges Bernard Shaw, ils l'ont dit ensemble. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Marcela Yacoub. Pour Vincent Guilluminot, qui a dit, ah, j'aime bien cette citation, qui a dit « L'odeur, c'est la vie. Ne puer qu'une fois mort est un manque de personnalité.
Ou Houellebecq.
Pouf.
Non mais de quelle odeur on parle?
Vous avez raison, remarquez.
Ah, ça lui collerait bien, c'est le cas de dire.
On a l'impression qu'il doit avoir mauvaise haleine. Non, on ne le connaît pas.
C'est pas une impression.
Vous l'avez côtoyé, Houellebecq, déjà?
Oui, on a joué dans Rumba la vie ensemble.
C'est pas vrai.
On n'avait pas de scène ensemble, mais j'ai fait la première répète. Avec
racontez-nous alors.
Non, comment... mais je suis mauvaise langue. Enfin, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce qu'il est arrivé à la première lecture et c'était le seul qui savait son texte.
Houellebecq?
Ouais.
Mais il avait peut-être trois mots en même temps.
Ah, il avait des belles scènes. Il jouait un médecin complètement pessimiste avec.
Dans le film Dubosc. De Franck Dubosc.
Ouais, dans Rumba la vie. Moi, j'avais pas de scène avec lui. Mais c'est vrai que bon, il fait un peu vieux bonbon au du sac, quoi.
S'il sent de la bouche, on a tout de suite compris où est le bec.
Oh, 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 c'est incroyable.
Je répète la citation, hein. Oui. Qui a dit « L'odeur, c'est la vie, ne puer qu'une fois mort est un manque de personnalité ».
Est-ce que c'est une femme qui a dit ça ?
Non, c'est un homme d'ailleurs pour lequel M. Gueluc a beaucoup d'admiration, autant le dire tout de suite.
Mais c'est quelqu'un qui manque d'hygiène, vraiment ?
Hitler ?
Alors c'est un...
non, pas Hitler. Qui a dit Hitler ?
Alors...
Churchill ?
Mais non !
Mais non, alors est-ce que c'est... c'est un auteur ?
Oui, un grand auteur.
Un auteur français ?
C'est pas Scutener ?
Mais non !
C'est pas Javal ?
Mais non, votre auteur favori, Philippe Gueluc.
Frédéric Dard.
Voilà.
Les grosses têtes sur RTL.
Une question pour Hélène Marin, qui habite Cergy. Elle a 91 ans. Elle est interviewée dans le Figaro Magazine ce week-end. Cette dame de 91 ans qui dit qu'elle était le 19 mai 1974 rue Bénouville et que ce soir-là, elle aurait dit... Comme ma sœur Marguerite, j'entre dans les ordres. De qui s'agit-il ?
Elle est entrée en politique ?
Elle n'est pas entrée en politique, mais effectivement, ce soir-là, elle a déclaré « Comme ma sœur Marguerite, j'entre dans les ordres ».
Dans les ordres.
Ça veut dire qu'effectivement, elle avait une sœur, sœur Marguerite, qui devait être au couvent, mais pas elle.
Donc elle dit « J'entre dans les ordres », mais elle ne rentre pas dans les ordres.
Vous devez comprendre.
Elle devient militaire ?
Non, elle ne devient pas militaire.
C'est pas lié à Pompidou, à la mort de Pompidou, parce qu'il y a eu en 1974, à la mort de Pompidou.
C'est bien, vous êtes sur une bonne piste.
Ouais.
Continuez à chercher le cochon Truffier.
La femme de Giscard d'Estaing.
Et elle s'appelle
Anémone.
Anémone Giscard d'Estaing, mais oui.
J'avais presque bon.
Parce qu'elle regarde à la télévision les résultats de l'élection présidentielle et elle voit que son mari, Giscard, ça y est, ce soir-là, le 19 mai 1974 à 20h, il est élu président de la République. Et elle dit, voilà, nous avions voté le matin en Auvergne, à la mairie de Chanona, et nous étions rentrés après le déjeuner à Paris. Lui, il n'était pas à la maison, mais elle regarde ça à la maison, l'élection, rue Bénouville. Et elle dit, ce soir, comme ma sœur Marguerite, j'entre dans les ordres. En gros, elle va être prisonnière, non pas d'un couvent, mais de l'Élysée.
Oh là là.
Il la ressortait de temps en temps pour faire des...
Oui, parce qu'il avait l'air d'un robot.
Moi, j'ai eu plusieurs fois le couple Giscard d'Estaing à bord.
Je me souviens très bien.
Ah, oui. Quand j'ai commencé d'une petite compagnie qui s'appelait Littoral, et il y avait une ligne Paris-Clermont-Ferrand en Fouquier-Saint. Et donc,
attendez, vous avez été steward sur Paris-Clermont-Ferrand.
Ben, quand j'ai commencé, oui.
Et ça allait, le décalage horaire, c'était pas
j'ai du mal à gérer le jet lag. Hein, une fois que tu passes au-dessus des volcans, c'est compliqué.
Vous avez commencé modeste.
Oui, ben on fait ses classes.
Mais ça se fait en combien de temps, Paris-Clermont-Ferrand? Oh, 10-12 minutes,
3 quarts d'heure.
Mais vous serviez en repas à combien de couverts?
Ah oui, non, mais c'était compliqué parce que comme c'était une petite compagnie et qu'il n'avait pas forcément les moyens d'adapter le service selon la durée du vol, on avait...
L'anémo n'avait pas le temps de s'épanouir. Hein.
Non, mais qu'on ait 45 minutes de vol ou 3 heures, c'était le même service. Donc on leur jetait les plateaux à la gueule, on n'avait pas le temps.
Et comment était monsieur Giscard d'Estaing?
Elle montait, elle avait toujours des gants en cuir rouge dans l'avion.
Mais ils étaient déjà couple présidentiel à ce moment-là ou pas?
Ah non, c'était après. Ah bah non, j'étais pas en fonction quand ils étaient présidents.
Moi je pensais avant même.
Il recrute hyper jeune.
Vous avez quand même quelques heures de vol quand même.
Tu avais quel âge en 72?
Je suis né en 73. Mais du coup c'était après. Mais
il a commencé sur Paris Alésia.
Et elle voulait toujours avoir le Figaro Madame et Vogue.
Ah oui.
Donc j'y mettais de côté à chaque fois parce que je la voyais régulièrement, parce que je faisais régulièrement la ligne.
Oui. Oh. Ton dernier vol, c'était quoi? La dernière fois que t'as été
dans un Monoprix. Et Giscard, alors il était comment lui, Giscard?
Oh, adorable, adorable.
Oh, ah, j'en suis.
Ah oui, il aimait bien les femmes, hein, parce qu'il n'arrêtait pas de draguer l'hôtesse avec qui j'étais.
Oh. En présence de son épouse?
Elle avait le nez dans le Vogue, vous voyez.
Bah en tout cas, lui, il est plus là, Giscard, mais Anémone, elle est toujours présente. Là, on la voit au musée d'Orsay. Elle répond dans le Figaro Magazine ce week-end. Anémone Giscard d'Estaing a 91 ans. Et effectivement, elle a dit ce soir-là, le soir du 19 mai 1974, ce soir, j'entre dans les ordres comme ma sœur Marguerite. Ça veut dire qu'il y a sa sœur qui est dans un couvent, peut-être encore aujourd'hui, allez savoir. Est-ce que c'est sa sœur aînée? Est-ce que c'est sa sœur qui... Peut-être elle vous en a parlé à bord.
Oui. On a parlé, elle s'est confessée parce que t'avais une sœur dans les ordres.
Elle t'a parlé de ses autres sœurs, Jonqui, Pâquerette.
Ah bah, vous savez.
Oui, on les appelait les pépinières.
Ah bah, ils ont quand même eu une fille qui s'appelait Jacinthe, hein, je me rappelle. Et Thierry Leluron avait d'ailleurs cette formule formidable. Il disait, c'est la première fois qu'on plante un poireau dans une anémone et qu'il en sort une Jacinthe. Ah bah oui.
Est-ce que tu as eu Chirac aussi? Est-ce que tu as eu d'autres grands hommes?
Grands hommes, alors au sens propre ou figuré, parce que sinon j'ai eu Sarkozy à bord, c'était pas grand.
Ah oui, avec Carla.
Oui.
Racontez ça, Nicolas et Carla. Ça tombe bien parce qu'elle était en garde à vue hier.
Ah, c'est pas à cause de moi. Non, mais je les avais eu à bord, mais c'était la seule fois où Sarkozy a pris un avion d'Air France pendant son mandat, parce qu'ils avaient été à Johannesburg voir Mandela et ils avaient prolongé des vacances, donc ils sont revenus avec un avion commercial.
C'était pour savoir comment ça se passait en prison.
Ils étaient arrivés dans l'avion et c'est en passerelle. C'est vrai qu'elle elle marchait avec des ballerines pour être à sa hauteur et elle plie un peu les genoux pour l'équilibre.
Non.
Et elle avait sa guitare.
Elle était à genoux en fait. Pour être à sa hauteur, elle rampait.
Et elle avait sa guitare et quand elle est arrivée,
c'était sur un vol Paris-Neuilly.
Non, c'était sur un Johannesburg-Paris.
Ah bon.
Et donc elle m'a confié sa guitare en disant prenez-en soin comme ma sœur. Et du coup, mais quand elle est sortie de l'avion et qu'elle est arrivée à Paris, elle l'a oublié sa guitare. Donc j'ai couru dans la passerelle en disant votre sœur.
Ah, ça fait un joli souvenir.
Est-ce que t'avais eu Laurent Ruquier d'ailleurs? Est-ce que t'as vu Laurent sur un vol?
De son vivant. Enfin,
Ah oui, c'est vrai. Eh ben, moi aussi, je me souviens avec émotion de ce type-là.
Non, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu pendant mon exercice d'hôtesse de l'air. Mais du coup, après, quand on s'est connus, puis que j'ai participé aux grosses têtes, je prenais soin de lui. Chaque fois que je savais qu'il prenait l'avion, je laissais des messages à l'équipage qui allait l'avoir en charge. Mais je me suis aperçu après que finalement, ça allait l'emmerder parce qu'ils arrêtaient pas d'aller toutes les 5 minutes.
Oui.
Et lui, il aime bien être tranquille. Ah, mais je le savais pas, je le connaissais pas encore bien. Oui. Et donc, on m'a dit, ça va, monsieur Riquier?
Bienvenue.
C'est gentil pour Jean-Fille.
C'est vrai que pendant les 2 ou 3 années, j'ai eu tous les stewards pédés.
Sur le dos.
Ce qui est un pléonasme.
Oui.
Autant dire tous les stewards qui venaient me voir toutes les 10 minutes.
Allez, on allait bien. Un petit peu de champagne en plus.
C'est le meupet de chaud.
Non, j'en pouvais plus.
Oui, donc,
non, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Monsieur Jean-Pierre, je ne vous connais pas.
RTL. Les grosses têtes répondent compte aux auditeurs.
Et oui, évidemment, sur notre adresse mail, beaucoup de réclamations, des compliments parfois. Premier auditeur au téléphone, bonjour.
Allô.
Allô, David.
Allô. Oui, c'est la formule allô. Consacrée, allô.
Allô, David. Oui, bonjour, David.
Vous êtes
où, Laurent? Je suis là, David.
Vous êtes à Paris?
Oui, à Neuilly, oui. Bonjour, David.
Ça va?
Oui, ça va. Bon,
si vous êtes à Montluçon, je raccroche.
Mais non, on n'est pas à Montluçon. Pourquoi vous voulez qu'on soit à Montluçon? C'était la semaine dernière, Montluçon,
oui.
David.
Ah oui, c'est une horreur.
Pourquoi c'était une horreur?
Ça résonne. On vous entend pas bien.
Ah, bah oui, quand on est à l'extérieur, c'est pas le même son que quand on est à Paris, c'est logique, ouais. David.
Exactement. Quand vous jouez à l'extérieur, Laurent, ça va pas.
Vous aviez l'impression qu'on était dans une station spatiale, comme si on parlait depuis Houston, en quelque sorte.
Exactement.
Oui.
Cela dit, c'est pas pour vous critiquer, David, mais la communication que nous avons avec vous n'est pas excellente, et vous avez l'air d'être au fin fond de je sais pas où.
Vous habitez où, vous, David?
Je suis en Touraine.
Ah, bah voilà. Bah c'est pas mieux.
Non, mais c'est vrai que franchement, le son est vraiment pas bon.
Non, mais je vous le confirme, depuis la Touraine, en tout cas, ça marche encore moins bien qu'à Montluçon. Bonjour Catherine. Catherine est là. L'auditrice suivante.
Bonjour des grosses
têtes. Bonjour. Elle a la pêche, Catherine.
Ah oui.
Et elle m'écrit: quelle bonne idée d'avoir proposé à Karina Marimont d'être grosse tête. Ah oui. Je suis fan depuis La Vache. C'est quoi ça, depuis La Vache?
Le film de Mohamed Hamidi.
Ah, vous étiez dans ce film? Oui. Mais je ne vous ai pas vu dans ce film. Vous faisiez quoi?
Elle était déguisée en vache.
Pourtant, on me voyait bien à l'époque. J'avais 20 kilos de plus.
Ah, bah c'est ça. Ouais.
Je jouais la grosse.
Belle recrue, dites-vous. Sors que très rarement, mais si vous passez dans ma région avec la Joconde, je vous garantis de prendre mon billet, dit-elle. Bah, c'est gentil.
Vous habitez où,
Catherine?
Je suis dans le Var.
On vous remercie en tout cas, et Karina est très émue que vous l'accueillez ainsi.
Je pleure, j'ai une petite larme. Merci, Catherine.
Salomé, maintenant. Bonjour, Salomé.
Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes, et bonjour, le public.
Ah, bah, bonjour, Salomé. Ouais, une professionnelle parmi les auditrices. D'ailleurs, vous êtes même venue dans le public nous voir, c'est ça, Salomé? Mais quand ça?
Eh ben hier, j'étais au fond. Avec mon gros ventre de femme enceinte, j'étais au fond.
Ah oui, je me souviens maintenant, oui.
C'est pour quand la naissance?
C'est pour le 3 août.
Bah, écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Votre anniversaire est à la fin du mois de mai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une belle montre RTL. Vous êtes d'accord, Salomé?
Ah, génial.
Bah, je vous en prie. Bah non, parce que je ne vous ai pas bien vu hier dans le
fond. N'en faites pas trop. Hein.
Vous voulez pas un stérilet plutôt? Ils font
Alors, je l'ai enlevé, justement. Je l'ai enlevé celui-là. Je vous le donne.
Il est magnifique, le stérilet RTL.
Ah, je croyais que c'était du lait concentré. Stérilet.
Stérilet.
Et j'ai vu qu'il y avait Philippe Gueluc qui était là aujourd'hui avec Yoann Rioux,
oui.
Que j'ai vu hier du coup.
Oui. Ah, vous étiez venu l'après-midi, d'accord.
Oui. Je suis fan de Philippe Gueluc.
Ah oui.
Et
oui.
Je suis amoureuse de Yoann Rioux.
Oh non.
Attendez, c'est pas possible ça.
Non, il y a une version de
Philippe Gueluc. Il y a un truc incompatible.
Amoureuse à quel point? C'est pas lui le père quand même.
Ah, moi je trouve qu'il est.
Est-ce qu'elle vous fait rien d'enfant?
Il est génial.
La grossesse vous a rendu aveugle.
Du coup, je l'ai pas attendu. Mais non, je suis trop fan. Il est
c'est
beaucoup
gentil,
trop gentil,
merci,
trop drôle. Je l'adore.
Eh ben, Nicole n'est pas d'accord avec vous, Salomé. Bonjour, Nicole.
Bonjour, Laurent. Bonjour à toutes les grosses têtes.
Bonjour, Nicole. Et vous, bonjour. Nicole, vous n'aimez pas du tout Yoann Rioux et Jean-Philippe Janssen.
Ah,
bah,
c'est un lot de deux, c'est une promo.
Surtout quand ils sont ensemble, vous dites leur rire empêche d'entendre les autres grosses têtes.
On va être
calme. Ah, oui, bah, c'est vrai. Et bah, c'est fait trop fort.
Et bah, il rit trop fort. Moi, je suis d'accord.
Des rires, c'est une évasion.
Et alors, dans les années 80, votre fils a travaillé avec Philippe Bouvard?
Oui, c'était l'assistant, vous savez, celui qui trie le courrier, qui regarde les questions.
On a cru que vous étiez la maman de Philippe Castelli.
Votre fils aura 60 ans l'année prochaine.
Voilà.
Et il a travaillé avec Philippe Bouvard du temps de Madame Belle-Père de Loche.
Voilà.
Et alors, ça s'est bien passé avec Philippe? Comment? Il était sympa dans le boulot, Philippe Bouvard?
Ah oui, apparemment, il était ravi. Et ça s'est très très bien passé.
Et alors, il continue à travailler à RTL, votre fils?
Ah non, non, il a arrêté, il est psychothérapeute. Mais c'était drôle à l'époque.
Ah bah, oh, merci.
Je suis tellement d'accord.
Ça l'est toujours. Hein.
Ah, bon, merci. C'est et une montre, ça vous, une montre vous ferait plaisir, Nicole, je
c'est
crois.
Vrai.
Mais il n'a pas, pas pu vous en ramener deux ou trois, le fiston, à l'époque.
Non, il n'y avait pas ça.
Il n'y en avait pas, à l'époque.
Bon, si, la montre RTL, ça date de... Je peux vous dire...
Oui, mais... chinoise. Moi, je veux la française.
Ah, il veut la montre française. Eh bien, c'est parti, Nicole, on vous envoie la montre française. Marion, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Marion. Ou Lou, peut-être. Je ne sais pas si c'est la maman ou la fille qu'on a au téléphone. Bonjour.
Allô?
Ah, c'est la fille. Oh. J'imagine que c'est la fille.
J'espère.
Lou, elle a 12 ans, c'est bien ça?
Oui.
Et tu adores Lou, Jean-Philippe Janssen, que tu as vu en spectacle.
Oui.
Ça, alors, c'est ta maman, en fait, qui est fan de Jean-Philippe Janssen, puis elle n'ose pas le dire, hein, c'est ça, Lou?
Non, c'est que, en fait, j'ai plus les grosses têtes.
Ah, ça, c'est la maman, ou alors elle a lu très vite.
Elle a pris une maturité, la gamine, en deux secondes.
J'aime beaucoup Jean-Philippe, mais j'écoute les grosses têtes. Ma fille, du coup, écoute les grosses têtes, et elle a eu comme un crush sur Jean-Philippe.
Ah, mais c'est parce qu'elle a cru entendre Donald, peut-être.
Non. Mais non.
Elle est bien, du coup, bah, comme il est du Nord et qu'il passe le Sébasto, j'ai emmené ma fille voir Jean-Philippe.
Ah, il l'a prise dans ses bras à plusieurs reprises, dites-vous.
Oui, parce qu'on a acheté son DVD et on est allé le faire dédicacer.
Ah, bah c'est pour ça.
Il ne faut pas faire de bêtises comme ça, madame.
C'est un gentil.
Il faut protéger votre enfant. Oui,
hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une photo et peut-être des places pour le prochain spectacle.
Oui. Vous êtes à Lille, alors, finalement.
Oui.
Eh ben, il n'y a pas de problème. Je viens jouer dans le Nord, au Sébastopol, au mois de novembre. Je vous mets des places. Gratuit.
Ah, ce serait trop gentil.
Avec plaisir, comme ça, je reprendrai la petite dans mes bras.
Ça, t'es pas obligé.
Et puis, d'ici là, il y aura peut-être 18 ans, en plus.
Toi, tu seras peut-être pas trop normalement avec Jean-Philippe, me fais pas trop de soucis.
RTL, les grosses têtes de nuit.
La question concerne une ville que je vous demande de retrouver, une ville qui a été marquée par les orages ces jours derniers. Elle se trouve, cette ville, sur la RD 965, à équidistance entre Auxerre et Tonnerre. Vous me direz, pour être marquée par les orages, ça tombe bien. Mais quel est le nom de cette ville à équidistance, on va dire entre 16 et 18 kilomètres d'Auxerre et de Tonnerre?
C'est pas connu comme Avallon.
Avallon, non.
Sans.
Ah, Avallon, il y a de la drogue à Avallon.
Ah oui, c'est avec la mer, évidemment.
Eh oui,
qui a été incarcéré.
Oui, mais elle n'était pas au courant.
Elle n'était pas au courant, oui.
C'était ses frères.
Et alors, c'était ses frères. Ils ont caché dans sa maison sans y dire.
Bah oui.
Et voilà, c'est parce que si tu regardes son profil, moi j'ai étudié son profil, cette dame est très honnête.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe.
Elle n'est pas responsable de ses frères.
Elle n'a rien fait.
C'est vrai.
Oui, il y a toute la famille Avallon qui est en train de... Ça, c'est la solidarité de la famille Avallon. Mais Carina, pourquoi vous défendez la mairie d'Avallon?
Parce que je trouve que avaler, c'est important.
Non, mais elle est présumée innocente.
Oh, mais c'est facile de fermer les yeux aussi, de ne pas voir.
Oh, dis donc, tu te calmes.
Moi, je verrais, si quelqu'un de ma famille me faisait en loupe. Bah, quand même. Et elle a été d'ailleurs, elle a été quand même incarcérée, non, en préventive.
Oui, merci pour cette analyse pertinente.
De toute façon, c'est pas Avallon. Voilà.
C'est pas
voilà.
Sens, alors Sens.
Sens non plus. On est dans la région, hein, vous
Tremblay.
Ah, comment vous dites?
C'est pas Tremblay.
Ah, j'ai cru que vous me donniez un ordre. Non, non. C'est pas Tremblay.
Joigny.
On est en Bourgogne-Franche-Comté.
Chablis.
Et c'est évidemment, voilà un expert. Chablis, bonne réponse de François Rollin.
Me dites pas que les vignes ont été abîmées.
Et oui, justement, c'est un papier qui est dans Libération aujourd'hui, un papier signé Coppelia Piccolo. Qui...
Non, vous avez inventé ce nom. Oui.
C'est quoi la vraie signature?
Écoutez, pourquoi
ce soir,
pourquoi
Coppelia Piccolo sur
parce
la
parce que
place
vous voulez toujours nous faire rire, donc tous les moyens sont
joli
bons. Et c'est vrai que c'est drôle.
C'est beau.
Pourquoi j'inventerais un nom pareil?
Cubito del Chablis.
Coppelia Piccolo, titre: dans le Chablis, des cailloux sont tombés du ciel. Pareil. Et Coppelia Piccolo nous raconte effectivement que les caves de Chablis ont été évidemment la proie des grelons gros comme des noix, les grelons.
Des grelons, vous dites des grelons?
Oui, des grelons, des grelons.
Bah oui, c'est un frelon, mais pas non, un laisse, grelon. Attends,
Jean-Philippe, ces choses-là, tu me laisses faire.
Et on dit des grelons.
Non, non, on dit des grelons, t'as raison, mais laisse-moi emmerder le patron.
Et c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que j'ai toujours dit des grelons.
C'est vrai?
Oui, j'ai jamais dit
un
des
grelon,
grelons.
Un grelon.
On dit des grelons.
Un grelon.
Moi, je vois pas la différence.
Ah bah non, vous.
Grelon. Des grelons.
On doit dire grelon car il y a un accent circonflexe sur le E.
Oui. Oui. Bah, il y avait des grelons. Des grelons.
Des grelons. Ouais.
Gros comme des noix. Et le Chablis pleure ses parcelles de vin abîmées par la grêle.
Nous aussi, on pleure.
Les viticulteurs appréhendent la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. C'est ce qu'écrit, en tout cas, Coppelia Piccolo dans Libération aujourd'hui. Et c'est vrai que le Chablis. Donne des recettes incroyables dans le Wikipédia de la ville de Chablis, parce que je fais des recherches, hein. Vous me connaissez. Hein.
Oui, oui.
C'est peut-être pas dire grêlon, mais en tout cas...
Oui, oui, oui.
Vous dites très bien Chablis. Oui.
Croyez-moi, elle est bossée, cette émission.
Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils
donnent des recettes? Une recette
je
de
pensais
quoi
pas qu'il y avait autant de recettes au Chablis.
Bah si.
Ah oui.
Avec du poisson peut-être?
Non, pas seulement du poisson. Toute la gastronomie locale est à base de Chablis, vous voyez.
Oui.
La cuisine traditionnelle chablisienne se distingue particulièrement, nous dit Wikipédia, par l'utilisation du vin de Chablis.
Bon, ah oui, ils vont pas aller en prendre un autre. Ils l'ont sous la
main. Oui, c'est ça, vous
quand vous voulez faire une traduction de vin blanc, vous l'avez tout Chablis.
Oui, mais laissez-moi vous donner la liste, vous voyez.
Alors.
Escargot au Chablis.
Ouais.
Oui.
Sol glacé au Chablis. Poulet au Chablis.
Ah oui, mais tout au Chablis.
Jambon chaud à la au Chablisienne.
Chablis. Oui.
Lapreau sauté au Chablis.
Oui, mais lapreau, c'est bon.
Ah oui. L'andouillette de Chablis.
Oui.
Le biscuit duché et les gougères au Chablis.
Ah oui.
Voilà tout ce que le Chablis peut évidemment accompagner.
Et ça marche très bien avec le saucisson.
Ils foutent du Chablis partout en fait.
Mais oui, non, mais...
Biberon au Chablis.
Biberon au Chablis.
Ils font tout.
J'y pense et puis Chablis. Enfin bon, a... les Chablisiens en tout cas qui nous écoutent seront heureux qu'on rende ainsi hommage à leur gastronomie. Et on espère en tout cas que les orages n'auront pas eu de conséquences. Ouais.
Bah si, puisqu'il y a un article.
C'est trop tard.
Oui, mais attends,
croyez tout ce que dit Piccolo.
Imaginez si elle s'était appelée Pipo.
Oui.
Ça aurait pas été mieux. Piccolo, c'est une petite femme.
Moi, je trouve ça très joli comme prénom et comme nom.
Coppelia Piccolo.
Coppelia Piccolo. Elle l'a pas inventé. C'est pas un pseudo. C'est sûrement son vrai nom.
Mais évidemment.
Et on embrasse cette journaliste qui parle des grappes de raisins mortes nées. Vous voyez, mort-nées. On dit mort-nées dans sa
maison.
Qui gisent sur le sol. Des feuilles naissantes virevoltant au vent. Jeudi, au lendemain d'orages violents, les feuilles ont traversé une vingtaine de... Non, les orages ont traversé une vingtaine de...
Ah oui, avec des gros grelons. Des grelons incroyables.
Je suis pas encore prêt pour la météo, moi.
La France est coupée en deux.
En tout cas, moi, il y a un hôtel-restaurant 3 étoiles à Chablis, où j'ai mangé et j'ai dîné, j'ai mangé les choses que vous venez de dire.
Ah oui, au Chablis.
Ouais, et c'était très 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 bien. Et figurez-vous que j'y étais tout seul, parce que le lendemain, j'étais invité à dîner chez Marc Menot, le défunt Marc Menot, restaurateur à Vallon, à Saint-Père-sous-Vézelay. Et voilà, comme c'était, je voulais faire deux étapes, donc j'en ai fait une tout seul. Donc voilà.
C'est une belle anecdote.
Hein. une belle aventure que vous nous contez là.
Avant l'émission, j'ai dit, je vais tous vous cueillir, je vais tous vous épater. Et ben ça y est, c'est fait.
Si au montage on arrive à mettre un gros rire de Jean-Philippe Janssen après ta blague, ça peut marcher.
Moi j'ai fini dans une cave à Chablis, j'ai fini dégustation dans une cave. C'est vrai.
Alors, voilà.
J'avais été jouer là-bas, j'ai fait une dégustation dans une cave, il y avait plein de saucissons pendus et on buvait du Chablis au milieu des saucissons. C'était très agréable.
Ben on embrasse.
on embrasse les saucissons.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des anecdotes sur Chablis.
Je suis jamais allé à Chablis. Je suis allé dans la Loire où j'ai dégusté du pouilly fumé.
Super.
Et ben voilà de belles anecdotes.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Kevin est en Haute-Savoie. Bonjour Kevin. Kev, si vous préférez.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Comment on vous appelle, Kevin ou Kev?
Oh bah les deux, ouais, Kev c'est sympa aussi.
Eh ben oui, Kev c'est même plus sympa que Kevin, Kev. Hein. Merci Kevin.
Allô.
Il vient de disparaître, je crois. Ou alors il a décidé de faire un changement de prénom.
Non.
Ah non, bon voilà, parfait. Faites quoi dans la vie, Kev?
Je suis cadre dans la vente de pièces automobiles.
Ah, quand même, dites donc, Kevin. Vous voulez savoir où vous risquez d'aller, Kevin, si vous gagnez?
Volontiers, oui.
Eh ben oui. Eh bien, au domaine de Dolomieu, c'est au cœur de l'Isère, entre montagnes et vallées. Le domaine de Dolomieu vous accueille au cœur d'un parc magnifique, 20 hectares peuplés d'arbres remarquables. Vous les verrez depuis la chambre. Un bel édifice qui date du XVIIe siècle, mais attention, hein, qui a été refait aujourd'hui. Il conjugue modernité et tradition. Vous logerez en chambre supérieure, ça veut dire au dernier étage. Et vous dégusterez un délicieux repas à la brasserie 205. Voilà votre week-end, grâce à weekendesk.fr, week-end en perspective pour deux personnes, un séjour de deux nuit, Kevin, êtes-vous prêt?
Je suis prêt.
Alors attention, voici les fake news, en tout cas il y en aura 5, plus une vraie info, c'est celle-là qu'il faut déceler. On commence par Philippe Gueluc.
Hier, dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Ziad-Takieddine, Carla Bruni a été entendue par la police. Les policiers qui l'ont entendue seront médaillés avant la fin de l'année.
Johan Rioux.
Mask Singer ce soir sur TF1. Vous allez enfin pouvoir découvrir qui de Gérard Depardieu, Gérard Miller, PPDA ou Nicolas Hulot se cache dans le costume du lapin.
Karina Marimont.
Mask Singer ce soir sur TF1 toujours. Si on en croit les premières révélations d'Inès Reg, c'est Natacha Saint-Pierre qui serait cachée dans le costume de l'épouvantail.
Jean-Phi Janssen.
Oui, la marque anglo-italienne Jordan Lucas vient de lancer un nouveau pantalon qui cartonne. Le Stan Stonewash. C'est un jean avec une énorme tache pour simuler une fuite urinaire. Le jean tache de pipi coûte 600 euros, mais est actuellement en rupture de stock.
François Rollin.
Violence chez les jeunes. France Télévisions abandonne son projet de relancer l'émission L'École des fans, la fameuse émission de Jacques Martin. En effet, lors du tournage de l'émission Test, un participant de 3 ans et demi en a poignardé un de 4 ans parce qu'il lui avait mis 8 sur 10.
Marcela Yacoub pour terminer.
On a les titres du nouvel album des Kenji Girac. Bang Bang, et là les yeux revolver. Dieu est un fumeur des gitanes et les petites balles perdues. Il y aura quand même un titre inédit, J'ai deux mains gauches, traduction des Duo Manitas des Ratas.
Alors, qui a dit la vérité, Kevin?
Alors, ben, je vais procéder par élimination. Hein.
Voilà, faites ça, éliminez.
J'élimine Karina.
Alors, oui. Karina Marimont, éliminée. Natacha Saint-Pierre, je crois, d'ailleurs, a déjà été candidate et a déjà fait Mask Singer. Elle ne sera pas dans un des costumes de ce soir. Mais Inès Reg, elle, est dans le jury. Elle est à côté de moi, d'ailleurs, dans le jury. Ça s'est très bien passé. Mais vraiment, en plus.
Oui, mais je vous crois.
Alors maintenant, vous éliminez qui d'autre?
Alors, bah, pour rester sur Mask Singer, je pense que j'élimine aussi Johan Rioux.
Alors, Johan Rioux, oui, non, ça, c'est vrai qu'il y a un lapin. Hein, si, moi, je sais qui c'est le lapin. Ah oui, oui, ça, c'est rigolo, d'ailleurs, qui c'est le lapin.
Est-ce qu'il y a une grosse tête, d'ailleurs, dans le casting
ah,
cette
papa,
saison?
Je peux rien dire.
Ah, ça veut dire oui, ça.
Vous me tirez les verres du nez toujours dans mes émissions.
Ah oui, mais moi, je suis pas comme vous. Moi, je balance pas. Non, je connais tous les personnages et je peux vous dire qui est le lapin, mais il faut me payer très cher. Qui vous éliminez d'autre, Kev?
Je pense que je vais éliminer Marcela Yacoub.
Très bien, Marcela, oui, non, c'est vrai que les...
C'était faux, ce que j'ai dit.
Oui, c'était faux. Oui. Les chansons de Kenji, c'est pas Bang Bang, elle a les yeux revolver ou Dieu est un fumeur de gitane. Ensuite...
Je crains qu'il n'y ait pas eu d'enfants poignardés, donc à mon avis, c'est bien... Je vais éliminer François Rollin.
Et il vous reste...
Il me reste Philippe Gueluc et Jean-Phi Janssen. Je vais garder Jean-Phi Janssen avec l'histoire du jean et la tache d'urine.
Eh oui, le jean tache de pipi coûte bien 600 euros et est en rupture de stock. Bravo. Je savais pas que c'était... À ce point à la mode, ouais. Un pantalon qui donne l'impression de s'être fait pipi dessus. Voilà ce qui effectivement a été présenté à la Fashion Week automne-hiver 2023 de Milan. Alors parfois, évidemment, ça a un peu choqué quand même, mais la marque explique vouloir dénoncer le capitalisme et les systèmes financiers qui ne ralentissent jamais, même pour aller aux toilettes. En fait, c'est ça l'idée.
Ah, oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que la vie va tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes.
C'est pour ça qu'ils le vendent 600 euros. C'est pour
dénoncer le capitalisme.
Bien sûr.
Bien sûr.
Ah, oui, non.
Il y a une logique.
Et il paraît que c'est sous-traité, c'est fabriqué en Extrême-Orient, et ce sont des enfants dans des caves qui sont urinés, qui urinent sur les pantalons.
Oui, oui. C'est un continent.
Et ça, c'était la Fashion Week de Milan, mais la Fashion Week de Peace. Alors, c'était encore pire.
Si vous ne fermez pas l'œil, ouvrez l'oreille. RTL, Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Une question pour Claudie Macouille, qui habite
Foucault. Il faut arrêter d'inventer des noms, Laurent.
Monsieur Bouvard.
Comment ça s'écrit, Laurent? Écoutez. M-A-C-O-U-I-2-L-E.
Oui.
Claudie Marcouille.
Ah. Ah. Elle écrit à Libération.
J'avais pas vu le R, il fallait écarter les deux. D'accord.
Ah, oui. Ah, vous aimez non, ça.
C'est mieux d'écarter les deux.
Claudie Marcouille habite Foucheron dans le Jura. Elle existe même, Marcouille.
Ben oui.
Et elle espère 300 euros, Claudie Marcouille, qu'elle touchera d'ailleurs, ce cher ben.
Qu'est-ce qu'elle touchera?
C'est gentil, ça porte bonheur.
Oh non, mais franchement. Non,
mais... Vous connaissez l'histoire du type qui passe à côté d'un champ et il y a un fermier qui est sur un tabouret, enfin il traîne pas, mais il y a aussi un taureau et lui demande « Pardon mon brave, quelle heure est-il ?» Et là, il y a le mec qui soulève les couilles du taureau et qui lui dit « Il est 15h20. » Ok, merci beaucoup. Et puis le mec continue sa promenade, et puis il repasse, le fermier est toujours là, il dit « Excusez-moi, mais j'ai pas vu le temps passer, quelle heure est-il maintenant ?» Le mec, il reprend les couilles du taureau, il soulève les couilles, il dit « Il est 15h45. » Et l'autre lui dit « Mais comment vous arrivez à me dire l'heure en soulevant juste les couilles du taureau ?» Il dit « C'est parce que le cadran de l'église sur le beffroi se trouve là et que je le vois pas à cause des couilles du taureau. »
C'est bon. Mais c'est con. Alors, pour Mme Marcouille, donc, qui habite Foucheron, dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on un garde-chasse qui s'appelle Hilarion?
Une œuvre littéraire?
Littéraire, non.
Opéra, alors?
Opéra, non.
Un tableau?
Un tableau, comment c'est un tableau? Ah, veut dire une toile.
Oui. Une toile, comment c'est un tableau? Il a écrit La Joconde, parle en fait.
Non, mais il y a des tableaux aussi à l'opéra, au théâtre et dans les comédies musicales.
Ah oui, oui, d'accord.
Je parlais d'un tableau scénique, voyez-vous.
D'accord, je parlais d'un tableau peint.
Non, un tableau peint non plus.
Une sculpture, peut-être?
Une sculpture, non.
Et vous avez dit donc, c'est pas un bouquin, c'est ça?
Ce n'est pas un livre.
C'est pas de la musique.
Alors, il y a de la musique.
C'est un opéra. Opéra bouffe.
Ce n'est pas un opéra.
Dans un fest-noz?
Pas un opéra bouffe. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Dans un fest-noz, peut-être en Bretagne.
Un fest-noz. Je pose des questions sur les fest-noz.
Bah, il faudrait. C'est un extraordinaire phénomène populaire.
Un dessin animé.
Un dessin animé, non.
Une comédie musicale?
Non, pas une comédie musicale.
Est-ce que c'est en cours? C'est-à-dire qu'en ce moment, ça marche du tonnerre?
Oh, bah, je peux vous donner d'ailleurs l'auteur. Est-ce que ça vous aide si je cite l'auteur de cette œuvre? L'auteur de cette œuvre est un compositeur qui s'appelle Adolphe Adam.
Est-ce que c'est Adolphe Adam ou Adolphe Fadan?
Non, non.
Parce que quand vous le dites trop vite, ça peut
ça
change comme Madame Macouille.
Je serais pas en train de dire que j'ai des grelons dans la bouche.
Mais est-ce qu'il est vivant?
Adolphe, et plus loin, Adam.
Est-ce qu'il est vivant, Adolphe Adam?
Ah non, Adolphe Adam est mort en 1856. Oui, oui. Oh.
Est-ce que c'est à Paris, par exemple, qu'on 1800... peut voir Hilarion?
Actuellement, on peut revoir Hilarion au Palais Garnier, absolument.
Ah, c'est dans Gisèle, l'extra. Oh, en plus, j'ai lu des magnifiques papiers, c'est dans l'opéra Gisèle. Et donc, c'est, bah oui, bien sûr, c'est Adolphe qui est l'ennemi de Gisèle. Et donc, Gisèle est fou amoureux d'Adolphe, et Gisèle, malheureusement...
Il a dit que c'était pas une opéra.
Ah oui, c'est,
c'est pas un opéra.
C'est un ballet.
Gisèle, c'est un ballet extraordinaire.
C'est un ballet. Bonne réponse.
Et j'ai appris plein de trucs avec les milices. Parce que Gisèle, finalement, elle va se venger. Évidemment, elle va avoir le cœur éploré parce qu'évidemment, son prince...
Quelqu'un le débranche.
Son prince, la trompe, son prince... Oui.
Vous dites Gisèle, vous.
Oui. Ah oui, parce que je pensais qu'on disait Gisèle.
Non, oui, la pyramide de Gisèle.
On dit Gisèle.
Ah, j'étais persuadé que c'était allemand et donc qu'on disait Gisèle.
Mais non, on dit Gisèle.
Voilà. Et en fait, tu vois, à la fin... Et
si un jour... Attends, ne raconte pas la fin.
Et Carina s'était trompée un jour, eh bien, tu vas te transformer comme Gisèle, tu vas te transformer...
Gisèle.
Toi, t'es pas gentil, hein. T'es pas très gentil.
Parce que j'ai connu des Guylaines, et donc tu vas voir, et à la fin, elle va se transformer en une femme, en une vampire qui va vouloir se venger, évidemment, d'Adolphe.
Oui, bon, en tout cas, c'est jusqu'au 1er juin au Palais Garnier. C'est le ballet le plus célèbre au monde, Gisèle. Toutes les petites filles rêvent d'incarner cette jeune fille qui meurt d'amour, qui devient fantôme, à force de danser. En fait, c'est ça, la malédiction. Faut pas trop danser parce qu'on finit par mourir, épuisé, et on revient dans
c'est la nuit seulement.
Après. Ah, moi je pensais que c'est quand on est vraiment, il ne faut jamais faire de mal à quelqu'un en amour, parce que au départ tu es triste et puis après tu veux te venger, tu veux.
Vous allez danser déjà avec Nathalie, votre fiancée?
Oui.
Ah, qu'est-ce que t'as dansé?
Mais moi je pense qu'il
a fait des slows extraordinaires. Et je lui ai mis la main et tout comme sur la,
non mais
dans le dos,
ouais,
bien ouais, comme ouais, il faut. Ouais. Non mais on s'est vraiment embrassé, emballé, et on adore ces petits moments de comment dire, d'œcuménisme. C'est-à-dire qu'on adore vivre des petits moments.
L'histoire est terminée.
Mais pas du tout, plus que jamais.
Parce qu'on ne parlait plus.
Parce qu'on n'a pas fait quelques émissions ensemble, mais je peux t'assurer que ça va comme jamais. On va en Écosse cet été. On va se marier en 2027.
Oh, alors, en 2027.
Le plan est déjà écrit. On a ce qu'on se parle.
2027,
déjà.
On a le temps de se préparer.
On se met ensemble deuxième. Donc je quitte Paris pour la façade ouest en deuxième semestre.
La façade ouest de Nathalie.
Écoutez-moi.
C'est Neuilly, quoi.
Deuxième semestre 2025, on se met ensemble.
Excuse-moi de t'interrompre, mais j'observe le public. Ils ont l'air de s'en foutre, mais complètement.
Dieu sait pourquoi.
Mais oui, je quitte Paris. Tu te rends compte, je quitte la capitale, je quitte le travail.
Éloigne-toi.
Et c'est beau, non, de comme.
Emmène Hidalgo avec toi.
Non, mais franchement, Carina. Est-ce que Carina, tu apprécierais qu'un homme quitte tout pour toi?
Non.
Ah bon?
Ah oui, mais surtout, un homme comme toi, t'imagines? Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles pas là, en Bretagne?
Eh bien, je travaillerai, je ferai des allers-retours en TGV. Oh. Mais je vais vraiment tout quitter. Est-ce que vous pourriez pas avoir une rubrique? Moi, je serai dans mon appartement ou dans ma maison et puis j'interviendrai par téléphone.
Oui, on va voir.
Dans les auditeurs, on la parole, par exemple.
On va te mettre en télétravail.
Alors, moi, pour nous ramener à des choses culturelles, vous avez dit que c'était le ballet le plus célèbre du monde. Vous êtes sûr que Sylvia et Coppelia, les ballets de Léo Delibes, ne sont pas encore plus célèbres?
Oui, c'est vrai.
Non, Gisèle, c'est vraiment le rôle que toutes les danseuses.
Parce que les danseuses, elles rêvent de danser le pizzicati.
Ah oui, oui, mais.
Oui, mais la danseuse peut rêver des conneries absolues. Enfin, c'est pas un critère.
Excusez-moi, mais le lac des cygnes, c'est pas de la crotte non plus. Hein.
Bah oui, c'est ça.
Bien oui, mais Gisèle, c'est génial parce qu'au début.
Gisèle!
Parce que Gisèle, on pense que c'est une cruche au début. Et finalement, c'est ça qui est extraordinaire.
Mais c'est une gourde.
Il faut toujours se méfier des gens un petit peu primeusotiers parce qu'après, ça va être terrible. Et non, mais c'est vrai, c'est
une jeune paysanne, Gisèle, au départ. Et elle oublie les remontrances de sa mère, et effectivement elle va être transformée en fantôme, et le garde-chasse Hilarion est amoureux de Gisèle, évidemment. Et finalement, Gisèle, c'est un peu vous, Johan Rio.
Oui, c'est vrai.
Parce que vous êtes
c'est
vraiment,
ouais,
vraiment,
j'imagine le mec
vraiment pour comme un balai.
J'imagine le pauvre partenaire pendant la scène de portée. Dans la version Holiday on Ice.
En tout cas, même.
Ça va être Holiday on Ice, lui.
En tout cas, même Marcouille vient de perdre 300 euros. Ben ouais.
RTL, le livre du jour.
C'est un roman, notre livre du jour. Ça s'appelle « Il s'est passé quelque chose ». C'est signé Denis Jambard, que vous connaissez sûrement en tant que journaliste, mais romancier aussi, Denis Jambard, qui d'ailleurs raconte l'histoire d'un jeune journaliste qui part à la recherche d'un journaliste disparu. On va en parler avec lui dans un instant. C'est chez Kalman Levy. Et à un moment donné, d'ailleurs, dans son enquête, le jeune journaliste nous dit que, on va dire livre de chevet, le journaliste disparu a un ouvrage qui s'appelle « Notre jeunesse », un essai qui fut publié en 1910. Mais qui est l'auteur de ce célèbre essai intitulé « Notre jeunesse », essai dans lequel on nous dit que la mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République, alors que la politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. Voilà.
– Charles Péguy.
– Et c'est Charles Péguy. Ah oui. Excellente réponse du professeur Rollin, bravo. Ah, vraiment, monsieur Rollin, vous ne nous décevez jamais. Bonjour. Bonjour, monsieur Jambard.
Bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour à tous vos camarades du jour.
Bonjour. Ce n'est pas par hasard, évidemment, qu'on trouve ce livre de Péguy dans l'appartement, au domicile de ce journaliste disparu, le fameux Jacob, dont on peut dire que le jeune journaliste, qui peut-être est vous d'ailleurs, part à la recherche tout au long de ce roman.
Oui, c'est à la fois moi et l'ancien, les deux personnages, une espèce de remise en cause. Comme je dis, c'est mon double négatif, ces personnages-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une carrière professionnelle qui est exactement le contraire de celle de ces deux personnages que je mets en scène dans ce livre. Même si j'évoque beaucoup, beaucoup de moments de ma propre existence.
Alors, il y en a un, en tout cas, qui s'appelle Jacob, qui est porté disparu officiellement le 21 février 2023. Il s'est évanoui dans la nature le jour de ses 75 ans. Et c'est vrai que d'un seul coup, ce jeune journaliste, qui n'est pas très bien vu au sein de sa rédaction, parce que on peut dire il a été pistonné, ça n'a jamais été votre cas, Denis Jambard?
Non, peut-être si, quand je suis rentré à Paris Match en 1970 pour un stage, je connaissais un rédacteur en chef qui m'a fait rentrer là.
Voilà, et c'est jamais bien vu de la part des autres journalistes quand on est...
Non, ça s'était bien passé, ça s'était bien passé.
Vous, ça s'était bien passé. Mais c'est pas le cas, en revanche, pour le héros de votre roman, qui lui... finalement préfère arrêter. Il propose d'ailleurs, comme enquête, il propose à sa rédactrice en chef de partir à la recherche de ce vieux journaliste disparu. Mais elle refuse, et c'est ça qui va être le déclic pour lui.
Oui, parce que depuis 2 ans, il est dans ce journal que j'ai baptisé Le Corsaire, pour évoquer un magazine du 19e siècle, et il n'est pas heureux, parce qu'il est pistonné en effet, et il n'a pas un talent extraordinaire, mais il a toujours été, bien qu'étant un riche héritier, il a toujours rêvé d'être journaliste. Je pense qu'il faut changer de méthode et qu'il veut faire des enquêtes au long cours, et on le lui refuse. Et comme il a les moyens de vivre, naturellement, il part à la recherche tout seul de ce personnage disparu.
Oui, effectivement, il est un peu fortuné, il a hérité, et il peut ainsi s'arrêter de travailler et faire au fond ce qu'est vraiment le métier de journaliste, c'est-à-dire enquêter, ce qu'on oublie parfois.
Oui, c'est-à-dire l'enquête approfondie, et ça a dicté d'ailleurs la forme du livre, c'est un livre par fragments, c'est-à-dire quand vous enquêtez, vous découvrez des choses qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre biographique, et c'était la complexité de ce livre, j'adore les constructions littéraires un peu complexes, et donc c'est pas une biographie de Jacob dans l'ordre, dans la chronologie de sa vie,
c'est
au rythme des découvertes de l'enquête.
Il y a bien des surprises, je ne vais pas raconter la fin, ça nous emmène jusqu'en Italie, mais ce qu'on peut dire de ce Jacob, en tout cas, c'est qu'il a couvert des conflits, des guerres, et que ça l'a marqué, évidemment, dans sa vie.
Oui, ça a été mon cas. Quand j'étais à Paris Match, j'ai couvert la guerre du Cambodge. J'avais 24 ans et c'est une blessure qui s'est jamais refermée. Et j'ai beaucoup utilisé. Alors, j'ai fait un choix inverse. J'ai cessé le grand reportage en rentrant deux ans plus tard à sa création. Mais j'ai gardé cette blessure et ce que j'ai vu de la guerre. Ma génération ne l'a pas connue. Je suis né après-guerre et donc... c'est quelque chose qui est en moi et qui résonne aujourd'hui très fort avec tout ce qui se passe autour de nous.
Oui, parce que c'est vrai aussi que ce journaliste Jacob disparaît au lendemain de la déclaration d'une nouvelle guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Oui, il a choisi le silence parce qu'il a le sentiment d'être incompris depuis quelques années. Et là, il prend le parti de disparaître. Alors, pendant tout le livre, on ne sait pas s'il est mort, s'il a fui quelque part, et donc c'est tout l'objet de l'enquête de Jacob, qui va finir par retrouver sa femme, puisqu'il a été marié très jeune, mais que ce métier de journaliste a fait exploser son couple.
C'est à New York, d'ailleurs, que cette enquête nous emmène aussi. L'Italie, c'est pour après, mais à New York, votre héros passe devant une galerie dans laquelle est exposée une toile de Mr. Brainwash.
Absolument, et figurez-vous que je l'ai acheté, cette toile. J'ai une passion pour New York, j'y vais toujours une ou deux fois par an. Je suis passé devant cette galerie et ça m'a dicté, au fond, d'une certaine manière, cet épisode du livre. Et j'ai fini par acheter cette toile il y a 2 ans. Je crois que j'ai fait une bonne affaire parce que le prix est en train de monter très fort.
Et sur cette toile, c'est écrit « Follow your dreams », »,« Suivez vos rêves ». Et d'ailleurs, cet artiste, il est français, Mr. Brainwash, c'est un surnom. Il s'appelle Thierry Guetta, de son vrai nom. C'est un graffeur français de Garges-lès-Gonesse. On dirait pas comme ça, Mr. Brainwash.
Absolument, mais c'est un copain, c'est la bande Banksy, vous savez.
Absolument.
Et il y a une autre phrase qui dit « Ne renoncez jamais ».«
Où life is beautiful
». Ouais. Absolument.
Et oui, et ben c'est ce qu'on trouve toujours, paraît-il, sur ces différentes toiles. Life is beautiful, Mr. Brainwash, ou MBW, de son vrai nom, Thierry Guetta, de Garges-lès-Gonesse. C'est, on va dire, un artiste de pop art ou de street art,
oui,
c'est bien ça?
De street art. Mais s'il y a parmi vos auditeurs qui vont à New York aujourd'hui, il y a une grande exposition qui lui est consacrée à New York en ce moment.
Et aussi, quand même, une musique, aussi en référence à la fin du livre. Ça m'a intéressé parce que je ne la connaissais pas. Cette musique, c'est la musique de Charles Yves.
Je l'ai découverte il y a quelques années en écoutant, je dois dire, France Musique et pas RTL, hélas. Mais c'est une musique obsédante. Si vous l'avez écoutée, vous voyez, c'est des cordes magnifiques et qui sont une espèce d'interrogation sur la nature humaine. Il y a une trompette solo qui répond et qui est la réponse presque divine. Et quatre flûtes qui questionnent la trompette solo. C'est totalement envoûtant. Et j'ai écouté ça pendant toute l'écriture du livre.
Et d'ailleurs, on l'entend pas, mais... Alors voilà. C'est ça la trompette envoûtante.
Voilà. Et les violons et les contrebasses sont absolument extraordinaires. Extraordinaires. Leonard Bernstein a donné des cours qu'il avait appelés, je ne le dis pas en anglais, c'est la question sans réponse.
Calman Levy a en tout cas choisi comme bandeau de votre livre une célèbre toile, peut-être une des plus connues des peintres américains. Vous pouvez, même si elle n'y est pas en entier d'ailleurs sur la couverture de votre livre, cette toile.
Absolument, alors comme c'est l'histoire de personnages assez solitaires, c'est Night Hawks, la fameuse toile où on voit un bar la nuit... avec une femme blonde à ses côtés, un homme, et devant un homme qui porte un chapeau de dos. On a sélectionné ça. Figurez-vous que je suis fou de cette toile et que mon père, qui était un peintre du dimanche, me l'a reproduit. Et le musée de Chicago, de manière incroyable, nous a autorisé à l'exploiter sans demander des droits.
Ça s'appelle « Il s'est passé quelque chose ». C'est une enquête journalistique, mais c'est un roman avant tout passionnant, signé Denis Jambard. C'est chez Calman Levy et c'était le livre du jour.
Les grosses têtes de nuit sur RTL.
Une question pour Alexandra Lebos. Une question concernant le 21 qu'on a vu pour la première fois il y a 30 ans, oui. On a vu pour la première fois le 21. Voilà, c'est tout bête. Mais de quoi s'agit-il ?
Ah, c'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars, le premier film de Star Wars, le premier épisode. Et d'ailleurs, et tous les week-ends, tous les 4 mai, je crois qu'il y a un jour en l'honneur de Star Wars. C'est le jour international pour Star Wars.
Et 21, c'est quoi là-dedans alors ?
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais tellement sur le 4 mai. C'est pas lié à ça ?
Non.
Ah d'accord.
Non, vous pouvez facilement trouver de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se cache derrière le 21 qu'on a vu pour la première fois il y a 30 ans.
Donc en 94.
Exactement.
Oui. C'est pas les chiffres du loto, le nombre de numéros au loto, non ? Il pourrait y avoir le numéro, peut-être que ça évolue.
Oui, le 21 est sorti en 94, je me souviens bien. Oui.
Fin 94, oui.
Il y a l'assassin qui habite au 21 aussi, mais ça n'a rien à voir.
Est-ce que c'est un truc qu'on observe dans le ciel ?
Oui, madame.
Oh.
Ah, bah voilà,
c'est un trou noir.
Alors, c'est un trou noir. Non.
C'est un groupe d'étoiles.
Non,
une météorite.
On l'a parfois surnommé le 21. Un satellite, et on l'a vu pour la première fois il y a 30 ans.
Une astéroïde.
Mais pourquoi l'a-t-on appelé le 21 ?
Ah ben ça c'est la vraie
question. Parce qu'il a la forme d'un 21.
C'est
son nom scientifique.
Il y avait 20 exemplaires de la même chose avant.
Ah, en tout cas, c'est très bien vendu, ça je peux vous le dire.
C'est les 21 anneaux de Saturne ?
Non, c'est pas Ariane, il y a Kourou. C'est-à-dire que c'est la fusée, bah oui, je suis trop bête, la fusée Ariane qui a été le 21e vol de la fusée Ariane dans l'histoire à Kourou.
Pas du tout.
Ah merde. Ah, j'y ai cru, vous m'avez laissé croire.
Alors, le 20.
Il est naïf.
Non, il est con.
Mais les 21 fait allusion à. C'est un titre ?
Non. Alors, tout le monde.
C'est un nom.
Tout le monde ne l'a pas appelé ainsi. Parfois, il a été surnommé le 21. Et il y a 30 ans qu'on le voit dans le ciel.
Oui. On le voit toujours, donc.
Ah oui, on en voit encore, oui.
C'est pas une planète, c'est pas une Terre.
Ce n'est pas une planète.
C'est un objet céleste.
Qu'est-ce que vous appelez un objet céleste ?
Genre Dieu.
J'inclus tout dedans, les planètes,
c'est pas un homme,
les trous noirs, les météores.
C'est pas un homme, non.
C'est pas un astronaute.
C'est pas naturel, en tout cas.
Un satellite.
Un satellite, non.
Un ovni, tout simplement.
Ah bah, tout simplement.
Bah, il y a un ovni qui aurait été vu,
qui s'appelle le 21. Non, bien sûr.
La station.
La station
spatiale internationale.
C'est pas lié à Ulysse 21, tout simplement. Le feuilleton Ulysse 21 qui a été diffusé pour la première fois chez le club Dorothée, chez Récréa 2, en 1994. Bonne réponse de Johan Rioux.
Pas du tout.
Est-ce que je me rapproche ou pas?
Pas du tout.
Non.
Non, il y a quelqu'un, évidemment. Si quelqu'un avait été steward ici, peut-être il pourrait vous aider, vous voyez.
C'est un débris d'avion.
Mais évidemment, je ne parle pas d'un steward qui aurait officié sur Paris Clermont-Ferrand.
Oui, non.
Oui, un vrai steward.
Un vrai, quoi.
C'est pas Concorde.
C'est pas la 321, tout simplement, le premier A321.
Ah oui, parce qu'il y a 21 dans.
21, bien sûr.
Dans
321.
Dans 321.
Il y a 21.
Oui.
Donc ça serait logique.
Et vie.
Mais c'est pas ça.
Et on l'aurait vu pour la première fois il y a.
Ben, il y a 30 ans. Et voilà. À Blagnac.
Eh ben non, mais vous n'êtes pas loin, vous rapprochez.
C'est un Boeing ?
Oui,
c'est un Boeing.
Alors.
Le Boeing,
c'est le 421.
Non.
C'est le plus petit avion du monde.
Mais non, non.
Les plus gros.
Le plus gros.
Mais non.
Le plus juste moyen au milieu.
Il y avait 21 hommes à bord ou 21 femmes à bord.
Oh bah non, un peu plus quand même.
Quand même, c'est pas des petits avions. Hein.
On peut mettre entre 300 et 550
un
passagers.
Un aéronef.
Mais non.
Le 777, la sortie du 777, le 777.
3 x 7, 21.
Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Bravo Jean-Philippe.
Eh oui, le 777, le 777, le Boeing 777, le Boeing 777, 3 x 7, 21, oui. Voilà pourquoi on l'a ainsi surnommé. Et le premier vol a eu lieu en 1994, juin 1994.
Mais à l'époque, il perdait moins de morceaux. Hein.
Alors, est-ce que vous avez été steward sur un Boeing 21, 3 x 7 ?
Oui, le 777, la majeure partie de ma carrière s'est passée sur le 777.
Eh ben, voyez !
Oui.
Alors, vous n'avez jamais fait le compte 3 x 7, 21 ?
Tu l'as jamais appelé 21 ?
Non, moi je faisais 7 plus 7 plus 7. Voilà. Ça dépend que j'étais dans l'avion.
Ça fait 21 aussi.
Ça fait 21 aussi.
Non, ça dépend à quelle altitude. Mais il est con.
Mais non, mais je vais. Vous croyez. Alors je fais du 777. Après je faisais du 747. Après je faisais du 320. Ça fait beaucoup de calculs d'un coup.
C'était quoi sa particularité extraordinaire à cet avion ?
Il avait
un détail. Il volait, c'était incroyable, il volait haut.
Oh, il volait, mais pas toujours.
Et il a... Non, mais j'étais toujours étonné. Tu sais, moi je me suis toujours émerveillé pendant toute ma carrière, parce que moi je suis pas pilote, donc je suis toujours fasciné de voir ce gros truc en fer se lever. Et des fois, je voyais des gens qui arrivaient avec des bagages, des cocottes minutes, des massades, des trucs. Et je voyais l'avion que je dis, on va jamais
décoller,
il va être trop lourd. Il va être trop lourd, trop lourd. Et je voyais, on se lançait sur la piste. Et je dis, mon Dieu. Et des fois, le cul, tu sais que sur ces Boeing, le cul, des fois, il touche le